Honoré de Balzac, Illusion perdue, 34. Cet hiver, rempli par tant de plaisirs, fut nécessaire à Théodore Gaillard et à Hector Merlin pour trouver les capitaux qu'exigeait la fondation du Réveil, dont le premier numéro ne parut qu'en mars 1822. Cette affaire se traitait chez Madame du Val-Noble. Cette élégante et spirituelle courtisane qui disait, en montrant ses magnifiques appartements, « Voilà les comptes des mille et une nuits !» exerçait une certaine influence sur les banquiers, les grands seigneurs et les écrivains du parti royaliste, tous habitués à se réunir dans son salon pour traiter des affaires qui ne pouvaient être traitées que là. Hector Merlin, à qui la rédaction en chef du Réveil était promise, devait avoir pour bras droit Lucien, devenu son ami intime, et à qui le feuilleton d'un des journaux ministériels fut également promis. Ce changement de front dans la position de Lucien se préparait sourdement à travers les plaisirs de sa vie. Il se croyait un grand politique, en dissimulant ce coup de théâtre, et comptait beaucoup sur les largesses ministérielles pour arranger ses comptes, pour dissiper les ennuis secrets de Coralie. L'actrice, toujours souriant, lui cachait sa détresse. Mais Bérénice, plus hardie, instruisait Lucien. Lucien, comme tous les poètes, s'apitoyait un moment sur les désastres. Il promettait de travailler, il oubliait sa promesse et noyait ce souci passager dans sa débauche. Le jour où Coralie apercevait des nuages sur le front de Lucien, elle grondait Bérénice et disait à son poète que tout se pacifiait. Madame d'Espard et Madame de Bargeton attendaient la conversion de Lucien pour faire demander au ministre par Châtelet l'ordonnance tant désirée par le poète. Lucien avait promis de dédier ses marguerites à la marquise d'Espard, qui paraissait très flattée d'une distinction que les auteurs ont rendue rare depuis qu'ils sont devenus un pouvoir. Quand Lucien allait le soir chez Doria et demandait où en était son livre, le libraire lui opposait d'excellentes raisons pour retarder la mise sous presse. Doria avait telle ou telle opération en train qui lui prenait tout son temps. L'avocat allait publier un nouveau volume de M. Hugo contre lequel il ne fallait pas se heurter. Les secondes méditations de M. de Lamartine étaient sous presse et deux importants recueils de poésie ne devaient pas se rencontrer. Lucien devait d'ailleurs se fier à l'habileté de son libraire. Cependant, les besoins de Lucien devenait pressant, et il eut recours à Finot, qui lui fit quelques avances sur des articles. Quand, le soir, à souper, Lucien, un peu triste, expliquait sa situation à ses amis les viveurs, il noyait ses scrupules dans des flots de vin de champagne, glacés de plaisanteries. Les dettes ! Il n'y a pas d'homme fort sans dettes ! Les dettes représentent des besoins satisfaits, des vices exigeants. Un homme ne parvient que pressé par la main de fer de la nécessité. « Aux grands hommes, le monde piété reconnaissant !» lui criait Blondet. « Tout vouloir, c'est devoir tout !» criait Bixiou. « Non, tout devoir, c'est avoir eu tout !» répondait des Lupeaux. Les viveurs savaient prouver à cet enfant que ses dettes seraient l'aiguillon d'or avec lequel il piquerait les chevaux attelés au char de sa fortune. Puis, toujours César avec ses 40 millions de dettes et Frédéric II recevant de son père un ducat par mois, et toujours les fameux, les corrupteurs exemples des grands hommes montrés dans leurs vices et non dans la toute-puissance de leur courage et de leur conception. Enfin, la voiture, les chevaux et le mobilier de Coralie furent saisis par plusieurs créanciers pour des sommes dont le total montait à 4 000 francs. Quand Lucien recourut à Lousteau pour lui redemander le billet de 1 000 francs qu'il lui avait prêté, Lousteau lui montra des papiers timbrés qui établissaient chez Florine une position analogue à celle de Coralie. Mais Lousteau, reconnaissant, lui proposa de faire les démarches nécessaires pour placer l'archer de Charles IX. « Comment Florine en est-elle arrivée là ? » demanda Lucien. « Le Matifat est effrayé, » répondit Lousteau. « Nous l'avons perdu. Mais si Florine le veut, il paiera cher sa trahison. Je te conterai l'affaire. » 3 jours après la démarche inutile faite par Lucien chez Lousteau, les deux amants déjeunaient tristement au coin du feu dans la belle chambre à coucher. Bérénice leur avait cuisiné des œufs sur le plat dans la cheminée, car la cuisinière, le cocher, les gens étaient partis. Il était impossible de disposer du mobilier saisi. Il n'y avait plus dans le ménage aucun objet d'or ou d'argent, ni aucune valeur intrinsèque. Mais tout était d'ailleurs représenté par des reconnaissances du monde piété, formant un petit volume in octavo très instructif. Bérénice avait conservé 2 couverts. Le petit journal rendait des services inappréciables à Lucien et à Coralie en maintenant le tailleur, la marchande de mode et la couturière, qui tous tremblaient de mécontenter un journaliste capable de tympaniser leurs établissements. Lousteau vint pendant le déjeuner en criant « Hurrah ! Vive l'archer de Charles IX ! J'ai lavé pour 100 francs de livres, mes enfants !» dit-il. « Partageons !» Il remit 50 francs à Coralie et envoya Bérénice chercher un déjeuner substantiel. « Hier, Hector Merlin et moi, nous avons dîné avec des libraires et nous avons préparé la vente de ton roman par de savantes insinuations. Tu es en marché avec Doria. Mais Doria lésine, il ne veut pas donner plus de 4 000 francs pour 2 000 exemplaires. » Et tu veux 6 000 francs. Nous t'avons fait 2 fois plus grand que Walter Scott. Oh, tu as dans le ventre des romans incomparables. Tu n'offres pas un livre, mais une affaire. Tu n'es pas l'auteur d'un roman plus ou moins ingénieux. Tu seras une collection. Ce mot « collection » a porté coup. Ainsi, n'oublie pas ton rôle. Tu as en portefeuille la grande mademoiselle ou la France sous Louis XIV. Cotillon Ier ou les premiers jours de Louis XV. La reine et le cardinal ou tableau de Paris sous la Fronde. Le fils de Consigny ou une intrigue de Richelieu. Ces romans seront annoncés sur la couverture. Nous appelons cette manœuvre « berner les succès ». On fait sauter ses livres sur la couverture jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres, et l'on est alors bien plus grand par les œuvres qu'on ne fait pas que par celles qu'on a faites. Le sous-presse est l'hypothèque littéraire. Allons, rions un peu. Voici du vin de champagne. Tu comprends, Lucien, que nos hommes ont ouvert des yeux grands comme tes soucoupes. Tu as donc encore des soucoupes? Elles sont saisies, dit Coralie. « Ah, je comprends. Et je reprends, » reprit Lousteau. « Les libraires croiront à tous tes manuscrits s'ils en voient un seul. En librairie, on demande à voir le manuscrit, on a la prétention de le lire. Laissons aux libraires leur fatuité. Jamais ils ne lisent de livres, autrement ils n'en publieraient pas tant. Hector et moi, nous avons laissé pressentir qu'à 5 000 francs, tu concéderais 3 000 exemplaires en 2 éditions. Donne-moi le manuscrit de l'archer. Après-demain, nous déjeunons chez les libraires et nous les enfonçons. » « Qui est-ce ? » dit Lucien. « 2 associés, 2 bons garçons, assez ronds en affaires, nommés Fendant et Cavalier. L'un est un ancien premier commis de la maison Vidal et Porchon, l'autre est le plus habile voyageur du quai des Augustins. Tous 2 établis depuis 1 an. après avoir perdu quelques légers capitaux, a publié des romans traduits de l'anglais, mes gaillards veulent maintenant exploiter les romans indigènes. Le bruit court que ces deux marchands de papier noirci risquent uniquement les capitaux des autres. Mais il t'est, je pense, assez indifférent de savoir à qui appartient l'argent qu'on te donnera. » Le surlendemain, les deux journalistes étaient invités à déjeuner rue Serpente, dans l'ancien quartier de Lucien, où Lousteau conservait toujours sa chambre, rue de la Harpe. Et Lucien, qui vint y prendre son ami, la vit dans le même état où elle était le soir de son introduction dans le monde littéraire. Mais il ne s'en étonna plus. Son éducation l'avait initié aux vicissitudes de la vie des journalistes. Il en concevait tout. Le grand homme de province avait reçu, joué, perdu le prix de plus d'un article, en perdant aussi l'envie de le faire. Il avait écrit plus d'une colonne, d'après les procédés ingénieux que lui avait décrit Lousteau, quand ils avaient descendu de la rue de la Harpe au Palais Royal. Tombé sous la dépendance de Barbet et de Broulard, il trafiquait des livres et des billets de théâtre. Enfin, il ne reculait devant aucun éloge, ni devant aucune attaque. Il éprouvait même, en ce moment, une espèce de joie à tirer de Lousteau tout le parti possible avant de tourner le dos aux libéraux, qu'il se proposait d'attaquer d'autant mieux qu'il les avait plus étudiés. De son côté, Lousteau recevait, au préjudice de Lucien, une somme de 500 francs en argent, de Fendant et Cavalier, sous le nom de commission, pour avoir procuré ce futur Walter Scott aux deux libraires en quête d'un Scott français. La maison Fendant et Cavalier était une de ces maisons de librairie établies sans aucune espèce de capital, comme il s'en établissait beaucoup alors, et comme il s'en établira toujours, tant que la papeterie et l'imprimerie continueront à faire crédit à la librairie, pendant le temps de jouer 7 à 8 de ces coups de cartes appelés « publications ». Alors, comme aujourd'hui, les ouvrages s'achetaient aux auteurs, en billets souscrits à des échéances de 6, 9 et 12 mois, paiement fondé sur la nature de la vente qui se solde entre libraires par des valeurs encore plus longues. Ces libraires payaient en même monnaie les papetiers et les imprimeurs, qui avaient ainsi pendant un an, entre les mains, gratis, toute une librairie composée d'une douzaine ou d'une vingtaine d'ouvrages. En supposant 2 ou 3 succès, le produit des bonnes affaires soldait les mauvaises, et il se soutenait en entant livre sur livre. Si les opérations étaient toutes douteuses, ou si, pour leur malheur, ils rencontraient de bons livres qui ne pouvaient se vendre qu'après avoir été goûtés, appréciés par le vrai public, si les escomptes de leur valeur étaient onéreux, s'ils subissaient eux-mêmes des faillites, ils déposaient tranquillement leur bilan sans nul souci, préparés par avance à ce résultat. Ainsi, toutes les chances étaient en leur faveur. Ils jouaient sur le grand tapis vert de la spéculation les fonds d'autrui, non les leurs. Fendant et Cavalier se trouvaient dans cette situation. Cavalier avait apporté son savoir-faire, Fendant y avait joint son industrie. Le fonds social méritait éminemment ce titre, car il consistait en quelques milliers de francs, épargne péniblement amassée par leur maîtresse, sur lesquels ils s'étaient attribués l'un et l'autre des appointements assez considérables, très scrupuleusement dépensés en dîners, offerts aux journalistes et aux auteurs, au spectacle où se faisaient, disait-il, les affaires. Ces demi-fripons passaient tous deux pour habiles. Mais Fendant était plus rusé que Cavalier. Digne de son nom, Cavalier voyageait. Fendant dirigeait les affaires à Paris. cette association fut ce qu'elle sera toujours entre deux libraires, un duel. Les associés occupaient le rez-de-chaussée d'un de ces vieux hôtels de la rue Serpente, où le cabinet de la maison se trouvait au bout de vastes salons convertis en magasins. Ils avaient déjà publié beaucoup de romans, tels que La Tour du Nord, Le Marchand de Bénarès, La Fontaine du Sépulcre, Tekeli, les romans de Galt, auteur anglais qui n'a pas réussi en France. Le succès de Walter Scott éveillait tant l'attention de la librairie sur les produits de l'Angleterre que les libraires étaient tous préoccupés, en vrai normand, de la conquête de l'Angleterre. Ils y cherchaient du Walter Scott, comme plus tard on devait chercher des asphaltes dans les terrains caillouteux, du bitume dans les marais, et réaliser des bénéfices sur les chemins de fer en projet. Une des plus grandes niaiseries du commerce parisien est de vouloir trouver le succès dans les analogues, quand il est dans les contraires. À Paris surtout, le succès tue le succès. Aussi, sous le titre de l'Estrelitz, ou la Russie il y a 100 ans, Fendant et Cavalier inséraient-ils bravement, en grosses lettres, dans le genre de Walter Scott. Fendant et Cavalier avaient soif d'un succès. Un bon livre pouvait leur servir à écouler leurs ballots de pile, et ils avaient été affriolés par la perspective d'avoir des articles dans les journaux, la grande condition de la vente d'alors, car il est extrêmement rare qu'un livre soit acheté pour sa propre valeur. Il est presque toujours publié par des raisons étrangères à son mérite. Fendant et Cavalier voyaient en Lucien le journaliste, et dans son livre une fabrication dont la première vente leur faciliterait une fin de mois. Les journalistes trouvèrent les associés dans leur cabinet, le traité tout prêt, les billets signés. Cette promptitude émerveilla Lucien. Fendant était un petit homme maigre, porteur d'une sinistre physionomie, l'air d'un kalmouk, petit front bas, nez rentré, bouche serrée, deux petits yeux noirs éveillés, les contours du visage tourmentés, un teint aigre, une voix qui ressemblait au son que rend une cloche fêlée, enfin, tous les dehors d'un fripon consommé. Mais il compensait ses désavantages par le mielleux de ses discours. Il arrivait à ses fins par la conversation. Cavalier, garçon tout rond, et que l'on aurait pris pour un conducteur de diligence plutôt que pour un libraire, avait des cheveux d'un blond hasardé, le visage allumé, l'encolure épaisse et le verbe éternel du commis-voyageur. « Nous n'aurons pas de discussion, » dit Fendant en s'adressant à Lucien et à Lousteau. « J'ai lu l'ouvrage, il est très littéraire et nous convient si bien que j'ai déjà remis le manuscrit à l'imprimerie. Le traité est rédigé d'après les bases convenues. D'ailleurs, nous ne sortons jamais des conditions que nous y avons stipulées. Nos effets sont à 6, 9 et 12 mois. Vous les escompterez facilement, et nous vous rembourserons l'escompte. Nous nous sommes réservés le droit de donner un autre titre à l'ouvrage. Nous n'aimons pas l'archer de Charles IX. Il ne pique pas assez la curiosité des lecteurs. Il y a plusieurs rois du nom de Charles, et dans le Moyen-Âge, il se trouvait tant d'archers. Ah, si vous disiez le soldat de Napoléon, mais l'archer de Charles IX. Hein. Cavalier serait obligé de faire un cours d'histoire de France pour placer chaque exemplaire en province. Ah, si vous connaissiez les gens à qui nous avons affaire, s'écria Cavalier. La Saint-Barthélemy vaudrait mieux, reprit Fendant. Catherine de Médicis ou la France sous Charles IX, dit Cavalier, ressemblerait plus à un titre de Walter Scott. Enfin, nous le déterminerons quand l'ouvrage sera imprimé, reprit Fendant. Comme vous voudrez, dit Lucien. pourvu que le titre me convienne. Le traité lu, signé, les doubles échangés, Lucien mit les billets dans sa poche avec une satisfaction sans égale. Puis, tous quatre, ils montèrent chez Fendant, où ils firent le plus vulgaire des déjeuners. Des huîtres, des beefsteaks, des rognons au vin de champagne et du fromage de brie. Mais ces mets furent accompagnés par des vins exquis, dus à Cavalier, qui connaissait un voyageur du commerce des vins. Au moment de se mettre à table, apparut l'imprimeur, à qui était confiée l'impression du roman, et qui vint surprendre Lucien en lui apportant les deux premières feuilles de son livre en épreuve. « Nous voulons marcher rapidement, » dit Fendant à Lucien. « Nous comptons sur votre livre. Nous avons diantrement besoin d'un succès. » Le déjeuner, commencé vers midi, ne fut fini qu'à 5 heures. « Où trouver de l'argent ?» dit Lucien à Lousteau. « Allons voir Barbet, » répondit Étienne. Les deux amis descendirent, un peu échauffés et avinés, vers le quai des Augustins. Coralie est surprise, au dernier point, de la perte que Florine a faite. Florine ne la lui a dite qu'hier, en t'attribuant ce malheur. « Elle paraissait aigrie au point de te quitter, » dit Lucien à Lousteau. « C'est vrai, » dit Lousteau, qui ne conserva pas sa prudence et s'ouvrit à Lucien. « Mon ami, car tu es mon ami, toi, Lucien. Tu m'as prêté 1000 francs et tu ne me les as encore demandés qu'une fois. Défie-toi du jeu. Si je ne jouais pas, je serais heureux. Je dois à Dieu et au diable. J'ai dans ce moment-ci les gardes du commerce à mes trousses. Enfin, je suis forcé, quand je vais au palais royal, de doubler les caps dangereux. » Dans la langue des viveurs, doubler un cap dans Paris, c'est faire un détour, soit pour ne pas passer devant un créancier, soit pour éviter l'endroit où il peut être rencontré. Lucien, qui n'allait pas indifféremment par toutes les rues, connaissait la manœuvre sans en connaître le nom. « Tu dois donc beaucoup ?»« Oh, une misère !» reprit Lousteau. « 1000 écus me sauveraient. J'ai voulu me ranger, ne plus jouer, et pour me liquider, j'ai fait un peu de chantage. »« Qu'est-ce que le chantage ?» dit Lucien, à qui ce mot était inconnu. « Le chantage est une invention de la presse anglaise, importée récemment en France. Les chanteurs sont des gens placés de manière à disposer des journaux. Jamais un directeur de journal, ni un rédacteur en chef, n'est censé tremper dans le chantage. On a des Giroudeau, des Philippe Bridau. Ces bravis viennent trouver un homme qui, pour certaines raisons, ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Beaucoup de gens ont sur la conscience des peccadilles plus ou moins originales. Il y a beaucoup de fortunes suspectes à Paris, obtenues par des voies plus ou moins légales, souvent par des manœuvres criminelles, et qui fourniraient de délicieuses anecdotes, comme la gendarmerie de Fouché cernant les espions du préfet de police, qui, n'étant pas dans le secret de la fabrication des faux billets de la banque anglaise, allait saisir les imprimeurs clandestins protégés par le ministre. Puis, l'histoire des diamants du prince Galathionne, la ferme Aubreuil, la succession Pont-Breton, etc. Le chanteur s'est procuré quelques pièces, un document important. Il demande un rendez-vous à l'homme enrichi. Si l'homme compromis ne donne pas une somme quelconque, le chanteur lui montre la presse, prête à l'entamer, à dévoiler ses secrets. L'homme riche a peur. Il finance. Le tour est fait. Vous vous livrez à quelque opération périlleuse. Elle peut succomber à une suite d'articles. On vous détache un chanteur qui vous propose le rachat des articles. Il y a des ministres à qui l'on envoie des chanteurs et qui stipulent avec eux que le journal attaquera leurs actes politiques et non leurs personnes, ou qui livrent leurs personnes et demandent grâce pour leur maîtresse. Des Lupeaux, ce joli maître des requêtes que tu connais est perpétuellement occupé de ces sortes de négociations avec les journalistes. Le drôle s'est fait une position merveilleuse au centre du pouvoir par ses relations. Il est à la fois le mandataire de la presse et l'ambassadeur des ministres. Il maquignonne les amours propres. Il étend même ce commerce aux affaires politiques. Il obtient des journaux leur silence sur tel emprunt, sur telle concession, accordée sans concurrence ni publicité, dans laquelle on donne une part au loup-cervier de la Banque libérale. Tu as fait un peu de chantage avec Doria. Il t'a donné 1000 écus pour t'empêcher de décrier Nathan. Dans le XVIIIe siècle, où le journaliste était au maillot, le chantage se faisait au moyen de pamphlets dont la destruction était achetée par les favorites et les grands seigneurs. L'inventeur du chantage est l'Aretin, un très grand homme d'Italie qui imposait les rois comme de nos jours tel journal impose les acteurs. « Qu'as-tu pratiqué contre le Matifa pour avoir tes 1000 écus ?»« Oh, j'ai fait attaquer Florine dans 6 journaux, et Florine s'est plainte à Matifa. » Matifa a prié Brolard de découvrir la raison de ses attaques. Brolard a été joué par Finot. Finot, au profit de qui je chantais, a dit au droguiste que tu démolissais Florine dans l'intérêt de Coralie. Giroudeau est venu dire confidentiellement à Matifa que tout s'arrangerait s'il voulait vendre son 6e de propriété dans la revue de Finot, moyennant 10 000 francs. Finot me donnait 1000 écus en cas de succès. Matifa allait conclure l'affaire, heureux de retrouver 10 000 francs sur ses 30 000 qui lui paraissaient aventurés, car depuis quelques jours, Florine lui disait que la revue de Finot ne prenait pas. Au lieu d'un dividende à recevoir, il était question d'un nouvel appel de fonds. Avant de déposer son bilan, le directeur du Panorama dramatique a eu besoin de négocier quelques effets de complaisance. Et pour les faire placer par Matifa, il l'a prévenu du tour que lui jouait Finot. Matifa, enfin commerçant, a quitté Florine, a gardé son 6e et nous voit maintenant venir. Finot et moi, nous hurlons de désespoir. Nous avons eu le malheur d'attaquer un homme qui ne tient pas à sa maîtresse. Un misérable, sans cœur ni âme. Malheureusement, le commerce que fait Matifa n'est pas justiciable de la presse. Il est inattaquable dans ses intérêts. On ne critique pas un droguiste comme on critique des chapeaux, des choses de mode, des théâtres ou des affaires d'art. Le cacao, le poivre, les couleurs, les bois de teinture, l'opium ne peuvent pas se déprécier. Florine est aux abois, le Panorama ferme demain. Elle ne sait que devenir. Par suite de la fermeture du théâtre, Coralie débute dans quelques jours au gymnase, dit Lucien. Elle pourra servir Florine. Jamais, dit Lousteau. Coralie n'a pas d'esprit, mais elle n'est pas encore assez bête pour se donner une rivale. Nos affaires sont furieusement gâtées, mais Finot est tellement pressé de rattraper son 6e. Et pourquoi ? L'affaire est excellente, mon cher. Il y a chance de vendre le journal 300 000 francs. Finot aurait alors 1/3, plus une commission allouée par ses associés, et qu'il partage avec des Lupeaux. Aussi vais-je lui proposer un coup de chantage. Mais le chantage, c'est la bourse ou la vie ? Bien mieux, dit Lousteau. C'est la bourse ou l'honneur. Avant-hier, un petit journal, au propriétaire duquel on avait refusé un crédit, a dit que la montre à répétition entourée de diamants, appartenant à l'une des notabilités de la capitale, se trouvait d'une façon bizarre entre les mains d'un soldat de la garde royale. Et il promettait le récit de cette aventure digne des 1001 nuits. La notabilité s'est empressée d'inviter le rédacteur en chef à dîner. Le rédacteur en chef a certes gagné quelque chose, mais l'histoire contemporaine a perdu l'anecdote de la montre. toutes les fois que tu verras la presse acharnée après quelques gens puissants, sache qu'il y a là-dessous des escomptes refusés, des services qu'on n'a pas voulu rendre. Ce chantage relatif à la vie privée est ce que craignent le plus les riches Anglais. Il entre pour beaucoup dans les revenus secrets de la presse britannique, infiniment plus dépravés que ne l'est la nôtre. Nous sommes des enfants. En Angleterre, on achète une lettre compromettante 5 à 6 000 francs pour la revendre. « Quel moyen as-tu trouvé d'empoigner Matifat ?» dit Lucien. « Oh, mon cher, » reprit Lousteau, « ce vil épicier a écrit les lettres les plus curieuses à Florine. Orthographe, style, pensée, tout est d'un comique achevé. Matifat craint beaucoup sa femme. Nous pouvons, sans le nommer, sans qu'il puisse se plaindre, l'atteindre au sein de ses lares et de ses pénates, où il se croit en sûreté. Juge de sa fureur, en voyant le premier article d'un petit roman de mœurs intitulé « Les amours d'un droguiste », quand il aura été loyalement prévenu du hasard qui met entre les mains des rédacteurs de tel journal des lettres où il parle du petit Cupidon, où il écrit « Gamé pour jamais », où il dit de Florine qu'elle l'aide à traverser le désert de la vie, ce qui peut faire croire qu'il la prend pour un chameau. Enfin, il y a de quoi désopiler la rate des abonnés pendant 15 jours dans cette correspondance éminemment drôlatique. On lui donnera la peur d'une lettre anonyme par laquelle on mettrait sa femme au fait de la plaisanterie. Florine voudra-t-elle prendre sur elle de paraître poursuivre Matifat ? Elle a encore des principes, c'est-à-dire des espérances. Peut-être garde-t-elle les lettres pour elle et veut-elle une part. Elle est rusée, elle est mon élève. Mais quand elle saura que le garde du commerce n'est pas une plaisanterie, quand Finot lui aura fait un présent convenable ou donné l'espoir d'un engagement, elle me livrera les lettres que je remettrai contre écu à Finot. Finot donnera la correspondance à son oncle et Giroudeau fera capituler le droguiste. » Cette confidence dégrisa Lucien. Il pensa d'abord qu'il avait des amis extrêmement dangereux. Puis il songea qu'il ne fallait pas se brouiller avec eux, car il pouvait avoir besoin de leur terrible influence au cas où Madame d'Espard, Madame de Bargeton et Châtelet lui manqueraient de parole. Étienne et Lucien étaient alors arrivés sur le quai, devant la misérable boutique de Barbet. « Barbet, dit Étienne au libraire, nous avons 5 000 francs de Fendant et Cavalier à 6, 9 et 12 mois. Voulez-vous nous escompter leurs billets ?»«
Je les prends pour 1 000 écus, dit Barbet, avec un calme imperturbable.
« 1 000 écus ? S'écria Lucien.
« Vous ne les trouverez chez personne, reprit le libraire. Ces messieurs feront faillite avant 3 mois. Mais je connais chez eux 2 bons ouvrages dont la vente est dure. Ils ne peuvent pas attendre. Je les leur achèterai content et leur rendrai leur valeur. Par ce moyen, j'aurai 2 000 francs de diminution sur les marchandises.
« Veux-tu perdre 2 000 francs ? Dit Étienne à Lucien.
« Non ! S'écria Lucien, épouvanté de cette première affaire. « Tu as tort, répondit Étienne.
« Vous ne négocierez leur papier nulle part, dit Barbet. « Le livre de monsieur est le dernier coup de carte de Fendant et Cavalier. Ils ne peuvent l'imprimer qu'en laissant les exemplaires en dépôt chez leur imprimeur. Un succès ne les sauvera que pour 6 mois, car tôt ou tard, ils sauteront. Ces gens-là boivent plus de petits verres qu'ils ne vendent de livres. Pour moi, leurs effets représentent une affaire, et vous pouvez alors en trouver une valeur supérieure à celle que donneront les escompteurs, qui se demanderont ce que vaut chaque signature. Le commerce de l'escompteur consiste à savoir si 3 signatures donneront chacune 30% en cas de faillite. D'abord, vous n'offrez que 2 signatures, et chacune ne vaut pas 10%.
les deux amis se regardèrent, surpris d'entendre sortir de la bouche de ce cuistre une analyse où se trouvait en peu de mots tout l'esprit de l'escompte.
« Pas de phrase, Barbé, » dit Lousteau. « Chez quel escompteur pouvons-nous aller ?»«
Le père Chaboisseau, quai Saint-Michel, vous savez, a fait la dernière fin de mois de fendant. Si vous refusez ma proposition, voyez chez lui. Mais vous me reviendrez, et je ne vous donnerai plus alors que 2 500 francs. »